RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs du monde entier. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi de la mise au point de la semaine et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter Mon Indonésie, le magazine culturel L'Indonésie en couleur et les chansons d'Indonésie. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et la mise au point de la semaine.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le 11e Forum de Bali pour la démocratie 2018 à Nusa Dua, Bali a été clôturé. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a reçu un prix du WMLF. Selon le président Jokowi, le développement des ressources humaines est une grande planification. Le Forum mondial sur la zakat possède 10 nouveaux membres, l'Indonésie et l'Australie étant la coopération antiterroriste. L'Indonésie et la Mongolie ont accepté d'intensifier leurs relations commerciales. Charmin nous présente maintenant le journal complet. Le vice-ministre des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, a officiellement clôturé le 11e Forum de Bali pour la démocratie 2018, vendredi à Nusa Dua, Bali, Indonésie. Lors de la cérémonie de clôture, A.M. Fahir a lu des déclarations du président comme une conclusion de la mise en œuvre du Forum de Bali pour la démocratie. Selon lui, il y a 3 points qui sont les conclusions finales du BDF. La première est que tous les pays rencontrent des difficultés pour mettre en œuvre une démocratie qui assure la prospérité à tous. À cet égard, l'Indonésie offre une solution à une démocratie inclusive dans laquelle la démocratie peut s'unir. Pour le réaliser, selon A.M. Fahir, toutes les parties prenantes doivent pouvoir participer, y compris le secteur privé, la jeune génération et les femmes. Deuxièmement, une bonne stabilité et une bonne gouvernance sont les clés du fonctionnement de la démocratie. La consultation publique permet au gouvernement de connaître les aspirations de ses citoyens. En outre, l'adoption d'innovations pour la technologie encouragera la croissance économique. La croissance économique est importante pour stabiliser et maintenir la démocratie. Ce qui joue également un rôle est la technologie de l'information. Et certainement, les milléniaux en font également partie. A.M. Fahir a ajouté le troisième point à souligner que les valeurs démocratiques ne peuvent être mesurées par des valeurs monétaires. La démocratie est une chose qui continue pour que la prospérité se reflète dans le bien-être de la population. La démocratie continue à exister. Cela ne s'arrête pas et on souhaite que tous puissent participer à la discussion sur la démocratie. Outre ces trois points de conclusion, la clôture de FBD a également présenté les résultats de la deuxième conférence des étudiants sur la démocratie de Bali et du Forum de la Société Civile et des Médias de Bali. Selon A.M. Fahir, les conférences d'étudiants montrent que la jeunesse et l'éducation sont deux variables qui ne peuvent pas être séparées pour créer un changement positif dans la société et contribuer à la réalisation de la démocratie et de la prospérité inclusive. Le Forum de la Société Civile et des Médias de Bali a souligné l'importance d'un apprentissage commun, du partage, des mécanismes d'expérience entre la société civile et les médias pour faire face aux défis de la démocratie. Le vice-président Youssouf Kalla a reçu le prix du 4e Forum mondial du leadership musulman, au WMLF à Londres. La fille du vice-président, Mohlissa Youssouf Kalla, représentant son père, a reçu le prix. Cela a été annoncé samedi par le ministre conseiller pour l'information, les affaires sociales et la culture à l'ambassade d'Indonésie à Londres, M. Thomas Siregar. Le secrétaire général de la WMLF, Dr. Husna Ahmad Obe, a ouvert cet événement à la salle Churchill au Parlement britannique, qui était assisté par des représentants du gouvernement, de politiciens, de chefs religieux, d'activistes interconfessionnels, d'universitaires et de chercheurs. Au moment de recevoir le prix, Mohlissa Youssouf Kalla a exprimé sa gratitude aux organisateurs et a lu un court discours soulignant l'importance pour les dirigeants musulmans du monde entier de prêter attention à la question de l'éducation, du développement et de la paix. Outre le vice-président Youssouf Kalla, plusieurs personnalités ont été récompensées, entre autres Dato' Sri Anwar Ibrahim pour la catégorie des réformes démocratiques et Selina Jean Muhammad pour sa contribution à la culture britannique. Dans son engagement à créer des ressources humaines de qualité, le gouvernement de la présidente Joko Widodo a augmenté les allocations budgétaires directement liées au développement humain, notamment l'éducation, la santé et la protection sociale dans le budget de l'État 2018. Le président Joko Widodo a déclaré après avoir visité l'université Aisyah Yogyakarta à Sleman, Java Central récemment, que sa visite vise entre autres à voir les choses qui sont liées au développement des ressources humaines. Aïssa est une organisation autonome des femmes de Muhammadiya, fondée le 19 mai 1917 par Nyai Ahmad Dahlan, l'épouse du fondateur de Muhammadiya, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Le Forum mondial sur la zakat possède 10 nouveaux membres. Le secrétaire général du Forum mondial sur la zakat, M. Bambang Sudibyo, a déclaré récemment que la conférence internationale du Forum mondial sur la zakat tenue du 5 au 7 décembre avait été bénéfique pour renforcer la coopération mondiale. Les 10 nouveaux membres sont l'Australie, le Sri Lanka, le Kazakhstan, le Ghana, les Maldives, le Sénégal, le Libéria, le Togo, le Bénin et la Sierra Leone. Le nombre de membres de ce forum est maintenant de 33 pays. Bambang, qui est également président de l'Agence nationale Amil Zakat, a déclaré en tant que plateforme mondiale du mouvement des Zakat, le Forum mondial sur la Zakat avait pour le rôle d'accroître la responsabilisation de la gestion des Zakat et de la coopération afin d'améliorer le bien-être de la population, notamment la lutte contre la pauvreté. La conférence a discuté divers sujets contemporains et actuels sur le développement de la zakat mondiale, tels que la zakat et l'objectif de développement durable, la coopération de la zakat entre les pays, le renforcement du rôle du Forum mondial sur la zakat, la bonne gouvernance AMIL et le renforcement de la transparence et la responsabilité des institutions de la zakat. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie, par l'intermédiaire de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, ou BNPT, et l'Australie ont étendu sa coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. L'extension de la coopération a été décrite dans un mémorandum d'accord signé par le chef du BNPT, le général Suhardi Alius, et l'ambassadeur d'Australie pour la lutte contre le terrorisme, Paul Foley, lors d'une réunion intitulée « Cérémonie de consultation et de signature du mémorandum d'accord sur le terrorisme et l'extrémisme viol à Yogyakarta vendredi. Une coopération bilatérale pour lutter contre le terrorisme entre BNPT et l'Australie a été établie depuis 2015. L'extension de cette coopération devrait avoir un impact significatif sur les relations entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme fondé sur la violence. Selon Suhardi, les facteurs de prévention sont prioritaires que les facteurs d'application de la loi, de sorte qu'un échange d'informations entre les deux pays est nécessaire, impliquant différents ministères et agences. Cela aidera grandement les deux pays à prévenir et à identifier les réseaux terroristes. Les délégués indonésiens et australiens ont discuté entre autres de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, la dernière loi indonésienne sur le terrorisme, la lutte contre l'extrémisme fondée sur la violence et le financement du terrorisme. Le gouvernement indonésien et mongol ont convenu de renforcer les relations commerciales, augmenter les exportations et les importations entre les deux pays. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur d'Indonésie en Chine et en Mongolie, M. Jauhari Oratmangun, lors d'un forum des entreprises qui s'est tenu à Ulaanbaatar en Mongolie récemment. Au cours des 4 dernières années, la valeur commerciale des deux pays a continué de baisser. Cette année, la valeur commerciale de l'Indonésie avec la Mongolie n'atteint que 9,5 millions de dollars américains. La faible valeur du commerce a également été dit par le vice-directeur général chargé du commerce extérieur et de la coopération économique du ministère des Affaires étrangères de la Mongolie, Batsetsek Tupsintuk. Selon la diplomate, la Mongolie a besoin de beaucoup de médicaments et d'autres ingrédients pharmaceutiques en provenance d'Indonésie. Jérémy, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
La mise au point de la semaine vous présente les questions d'actualité dans la semaine.
Chers auditeurs, la mise au point de la semaine aujourd'hui, dont le titre est L'éradication de la corruption s'améliore de plus en plus. L'éradication et la prévention de la corruption en Indonésie s'améliorent. C'est illustré par le score de l'indice de perception de la corruption. Bien qu'il ait stagné à 37e en 2017, ce score a rapidement augmenté par rapport à 1998. Cette condition a également écarté l'opinion selon laquelle la corruption en Indonésie est très précaire. De 1998 à 2018, le changement était très important. Au pire de toute l'ASEAN, il s'élève maintenant au numéro 37. Le président Joko Widodo a déclaré dans son discours lors de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la corruption à Jakarta, mardi cette semaine, que cela devrait être reconnaissant et ne laisser personne dire que la corruption en Indonésie est très grave. En réponse à de nombreuses pressions d'arrêt ou OTT menées par la Commission d'éradication de la corruption, abrégée en KPK, le président Jokowi a déclaré que c'était vraiment nécessaire parce que cela faisait partie de l'application de la loi. Il a précisé que le gouvernement avait déployé diverses actions de prévention. À partir de l'application des services électroniques au système de traitement de plaintes. M. Jokowi a également ajouté qu'il avait publié le règlement présidentiel numéro 54 en 2018 sur la stratégie nationale de prévention de la corruption. Ce règlement présidentiel place le KPK en tant que coordinateur de l'équipe nationale pour la prévention de la corruption. De plus, le gouvernement a également réduit le nombre de corrupteurs susceptibles de fuir leur argent de corruption à l'étranger. L'Indonésie et la Suisse sont actuellement à la dernière étape de l'entraide judiciaire qui servira de base pour confisquer, arrêter et annuler les avoirs des criminels cachés à l'étranger. Dans le même temps, Agus Raharjo, président de KPK, a déclaré que comparé à plusieurs pays, la croissance de l'IPC indonésien était la plus forte. Cela devrait être apprécié, bien qu'il ne soit pas encore idéal. Il a déclaré que la croissance de l'Indonésie était de 17 points, et pour le Vietnam est 10 points, pour l'Argentine est 9 points, pour le Nigeria est 8 points, pour la Chine 6 points, et 1 point pour les Philippines. Alors que le Brésil, le Cambodge et la Malaisie avaient chuté. Le KPK a organisé une conférence nationale sur l'éradication de la corruption dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la corruption 2018, dont le thème est « Réaliser le système d'intégrité des partis politiques ». L'événement a eu lieu le 4 et 5 décembre 2018 avec un certain nombre d'événements tels que des séminaires, des enchères publiques du Bhoutan, des gratifications et des expositions anticorruption avec des ministères, des institutions, des responsables de l'application des lois et de la société civile. C'est toute la mise au point de la semaine.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
L'histoire d'aujourd'hui, le 9 décembre. Le 9 décembre 1947, le massacre de Rawa Gede. Le massacre de Rawa Gede est le massacre d'habitants du village de Rawa Gede, situé entre Karawang et Bekasi. Ce massacre a été commis par l'armée néerlandaise lors du lancement de la première agression militaire. 431 résidents ont été victimes de ce massacre. Le 14 septembre 2011, le tribunal de l'AIE a déclaré que le gouvernement néerlandais devait être responsable et indemniser les victimes et leurs familles. Le 9 décembre 2005, la Journée mondiale de lutte contre la corruption a été célébrée pour la première fois. La Journée anticorruption a pour objectif de sensibiliser à la corruption et à ses conséquences négatives pour la société. La Journée internationale de lutte contre la corruption a été créée par l'Assemblée générale des Nations unies qui a adopté la Convention des Nations unies contre la corruption le 31 octobre 2003 à Mexico. La commémoration de la Journée anticorruption a commencé à appliquer en décembre 2005. Le 9 décembre 2016, la bombe de Madagascar. Le 9 décembre 2016, à Madagascar, au Nigeria, deux femmes ont commis un attentat suicide. La bombe a blessé au moins 177 personnes et tué 57 personnes. Parmi les blessés, 120 étaient des enfants. Les autorités ont excusé le groupe extrémiste islamiste Boko Haram d'être le coupable. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique « Mon Indonésie » intitulée « Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décerné des prix à 110 athlètes exceptionnels ». Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décerné à nouveau des prix aux 110 athlètes exceptionnels à la fin 2018 pour une valeur totale de 5 milliards de rupiah. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Imam Nahrawi, a déclaré mercredi à Jakarta que le gouvernement avait récompensé les athlètes ayant remporté des médailles aux championnats de l'ASEAN, de l'Asie ou du monde, y compris les champions du monde de cours sur route et haltérophilie. Le prix du gouvernement sous forme de bourse d'études pour les étudiants de moins de 16 ans et d'argent destiné aux entraîneurs d'athlètes seniors. Les athlètes qui ont reçu le prix à la fin de cette année, entre autres, l'équipe de football indonésienne U12 et U16. Les athlètes indonésiens ayant remporté des médailles aux Jeux Asian Autisme 2018 et les athlètes haltérophilie ayant remporté des médailles aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2018. Ce prix a également pour but d'encourager l'Indonésie à se préparer pour les Jeux Olympiques 2032. Le ministère de la Jeunesse et des Sports demande aux parents d'athlètes de continuer à soutenir leurs filles ou bien leurs fils à devenir des athlètes exceptionnels lors de championnats internationaux à la suite de récompenses décernées par le gouvernement, y compris la nomination d'athlètes en tant que fonctionnaire. L'athlète médaillé d'or du championnat multisport qui sont nommés en tant que fonctionnaires souhaite qu'ils puissent encore se consacrer au ministère de la Jeunesse et des Sports en tant qu'athlète ou entraîneur et ne pas travailler dans la région. Cela a été dit par l'athlète Hanifan Yudani Kusuma, médaillé d'or en sport d'art martiaux aux Jeux Asiatiques 2018. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia.
Voici le magazine culturel. Comme d'habitude, vous pouvez écouter notre émission par la diffusion en direct à www.voinews.id. Aujourd'hui, je vous invite à visiter la baie de Kletekan, Malang, la province de Java de l'Est. Restez donc avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, Teluk Kletekan ou la baie de Kletekan est une attraction touristique intéressante. Elle se trouve à Dusun Lenggok Sono, le village de Purwodadi, Triudo, le district de Malang, Java de l'Est. Pour arriver à Teluk Kletekan, vous avez besoin beaucoup de temps. Lorsque vous arrivez au hameau de Lenggok Sono, dans le village de Purwodadi, vous pouvez y aller par la plage de Lenggok Sono, en louant un bateau de pêche dont le prix est environ 50 000 rupiah par personne. Ou vous pouvez traverser le sentier à pied ou à la moto. Mais la route est assez dangereuse et suffisante pour contester votre adrénaline. La baie de Kletekan est ouverte 24 heures par jour, c'est-à-dire tous les jours, y compris le week-end. Mais si vous voulez prendre et louer un bateau, vous devez venir vers 7 heures. Pour entrer dans Teluk Kletekan, vous n'avez pas besoin de payer un billet d'entrée. Après un long et pénible voyage, à votre arrivée à Teluk Kletekan, toute votre fatigue disparaîtra et sera remplacée par de beaux paysages que vous ne trouverez nulle part ailleurs. L'eau de mer claire vous accueillera avec son éclat. La profondeur de l'eau de mer varie de 4 à 7 mètres. À Teluk Kletekan ou à la baie de Kletekan, vous pouvez pratiquer de nombreuses activités, comme la plongée en apnée, qui suscite de plus en plus d'intérêt. La baie de Kletekan est célèbre pour son magnifique biote sous-marin. À une profondeur de 7 mètres, le soleil peut encore illuminer au fond, vous permettant ainsi de voir le corail et le poisson coloré. Chers auditeurs, au bord de la mer, l'eau est de plus en plus verte et claire. Sur les rochers au bord de la baie, les visiteurs peuvent voir des dizaines de limaces de mer. Sur les rochers au bord de la baie, vous pouvez également sauter et plonger dans la mer. Après être fatigué de la plongée en apnée et de diverses activités à Teluk Kletekan, dans l'après-midi, vous pourrez également voir le magnifique ciel de couleur orange combiné à l'eau de mer bleue. Ce paysage vous émerveillera certainement. Chers auditeurs, c'est toute l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui sur la baie de Kletekan, Malang, la province de Java de l'Est.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie, on se rencontre dans la rubrique L'Indonésie en couleur avec moi, Tiwi. J'ai le plaisir de vous informer sur le titre Batam International Cultural Carnival 2018, en français le Carnaval Culturel International de Batam. Restez avec nous à RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. Parlons de cœur de 3,3-5 kHz ou par www.voinews.id. Batam est la plus grande ville de la province de l'île de Riau et située dans un endroit très stratégique. De plus, Batam est également près de deux pays voisins, à savoir Singapour et la Malaisie. Cela rend Batam assez fréquenté par les touristes étrangers. Pour attirer plus de touristes, on a tenu le Carnaval culturel international de Batam 2018, les 8 et 9 décembre 2018. Chers auditeurs, cet événement a été organisé par l'Agence de concession de Batam en collaboration avec l'Association du Carnaval indonésien des îles Riau. Le directeur de la promotion et des relations publiques de l'Agence de concession de Batam, Budi Santoso, a déclaré que l'événement était centré sur la rue de Imam Bonjol Nagoya, Batam. En général, Il y a deux activités principales, à savoir le village de Boulay Fantastic Night le samedi soir, le défilé d'art culturel et le défilé de carnaval le dimanche. Dans ce défilé de festival culturel, différentes danses de l'archipel sont présentées, notamment les danses de persembahan, de rentak Melayu, de piring, de Turongo Putra Mataram, de Nias, de Dayak, de Gondang Neuf, Tapanuli du Nord, de Barong Mustiko Joyo, de Topeng Ireng Magelang, de Reok Ponorogo, de Barongsai, et les autres œuvres des jeunes. Plus de 500 talents de costumes sont exposés dans le défilé composé du carnaval de la mode de Jember, du carnaval de batik Solo, des vêtements de marionnettes de Poso de Bali, des vêtements de la tribu de Laut, de la culture agricole, des vêtements de recyclés et de costumes universels. Dans le même temps, le ministre indonésien du tourisme, Arif Yahya, a déclaré le Carnaval culturel international de Batam, ou abrégé en BICC, était un événement spectaculaire. Ce festival fait partie des célébrations du 199e anniversaire de Batam et inclut dans 100 calendriers des événements du ministère du tourisme en 2018. Grâce à ce festival, les touristes sont invités à explorer la richesse des arts, de la culture et de la cuisine de Batam. Le concept du Batam International Cultural Carnival 2018 a été soigneusement préparé en présentant une variété de cultures d'archipel et des autres concepts de festivals de roue tels que le Jember Fashion Carnaval ou en français le Carnaval de la mode de Jember. C'est tout l'Indonésie en couleur cette fois-ci.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonjour, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous sommes de nouveau ensemble dans la rubrique Courrier et musique et l'équipe de l'émission française de la voix de l'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et le message. Nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons chantées par Radini. Avant d'écouter la première chanson, je vais saluer nos auditeurs. Bonsoir, cher Lupna aux États-Unis et Idris Boudina. Comment allez-vous? Bon week-end à vous et que j'apprécie sincèrement que vos repos soient agréables. Et ensuite, je vais dire bonjour à Nahmoshe Nouari à boîte postale 154-17-19000 Algérie. Merci pour vos emails et restez toujours en contact avec nous. Je vais dire bonjour également aux auditeurs français Maurice Mercier à 537 rue François Guiraud 69400 Villefranche, La France. Comment ça va? J'espère que vous êtes en bonne santé et merci d'écouter la voix de l'Indonésie. Bon, chers amis, écoutez maintenant la première chanson intitulée Fatigué, santé par Radini. Bonne écoute.
Aku lelah dan menyerah telah habis sama. No. dalam bunga tirumu secepat itu ku hilang dari hidupmu. Bagaimana ku harus berdiri setelah kau habiskan seluruh energi? Ingin ku jalani hari, oh, tanpa bayangmu lagi. Semua tinggal memori sampai nanti.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie à Jakarta dans la rubrique Courrier et musique. Et cette fois, je présente aussi des chansons chantées par Radini. Maintenant, je vais saluer nos auditeurs en France. Fabien Serf, boîte postale 110-50700, Valognes, la France. Et ensuite, comment allez-vous à Jean-Marie Monplot, à 409 Faubourg Montmélian, 7300 Chambéry, la France. Christian Guibaudot à Rue Gaston Charbonnier, 06300 Nice, la France. Et toujours en France, pour passer le bonjour à René Grondin. Meilleures salutations à notre ami Hervé Duval de France. Merci à vous pour le rapport d'écoute. Et chers amis, on écoutera la deuxième chanson intitulée L'amour va répondre. Bonne écoute.
Cara,
Je vous remercie d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et voilà, chers amis, c'est la fin de ce courrier. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Nous attendons de bonnes nouvelles de vous et restez toujours en contact avec nous. Et voici les deux dernières chansons intitulées « Voler » et « À bientôt ». Tous les deux sont chantés par Radini. Merci à tous et à la semaine prochaine.
That you're the one. Got me feeling so crazy. Every day you want my mind. Then it's over and we're done. But this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock. Then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go. They're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when you left, is what I gotta say though. Hey.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own place.
Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, est le service international de RRI. Nous diffusons tous les jours à travers les ondes courtes
sur 3325
kHz par le site www.voinews.id/french ou par l'application RRI Play. RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, Music Define.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
sadari saat-saat dulu, dan ku mengerti semua maksud untukku. Tinggallah sesal yang ku rasakan kini, semua takkan terjadi. Oh,
maafkanlah memang semua kesalahan dariku, dan kini semua terjadi. Sesal yang
merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 45 Jakarta 10110 ou PO Box 1157 Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.